Dans un petit cœur ce matin qui veut nous bénir tous. Ça, vous êtes là?
Amen.
Amen. Il veut nous bénir tous. Voilà, on pourrait saluer notre voisin, lui dire t'as bien fait d'être là malgré la chaleur. Hein, si les chrétiens sont prêts à mourir pour Jésus, nous on est prêts à supporter un peu de chaleur pour le Seigneur. Amen. Voilà, même si on essaiera de progresser pour qu'il y ait moins de chaleur. Alléluia. Voilà, ensemble on veut partager la parole de Dieu. Je voudrais dire ceci. Vous savez, c'est bien de demander à Dieu pour nos problèmes. C'est bien. Parce que la Bible dit demander. Mais c'est mieux de demander à Dieu pour le problème des autres et de lui faire confiance pour nos problèmes. Voilà, mais c'est bien de demander à Dieu, parce que nous avons un Dieu qui nous aime, et malgré le fait qu'il est omniscient, il sait tout, eh bien c'est lui qui nous invite à demander. J'oublierai jamais ce prédicateur qui m'a dit, il a redit dernièrement, et je l'ai déjà dit, mais il m'a dit, David, demande beaucoup et tu recevras beaucoup. Et j'ai jamais oublié cela, ben oui, il y a des choses que nous vivons parce que nous les demandons. Mais c'est beau et c'est aussi une preuve de maturité quand on arrive à demander à Dieu pour les autres. Et quand vous demandez à Dieu pour les autres, vous voyez que Dieu s'occupe de vous. Amen. Ensemble, nous lisons Matthieu chapitre 16, verset 18. Et j'aimerais en tout cas que le Seigneur nous amène ensemble dans une direction que je reprendrai à la rentrée en septembre. Et je voudrais dès l'approche de l'été, commencer à montrer une direction que nous voulons prendre ensemble. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Il est dit ceci, Jésus dit, « Moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Voilà, alors tu es Pierre et sur cette pierre, ce n'est pas le même mot, mais il s'agit là de la révélation que Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais moi, je voudrais ce matin m'arrêter sur le fait que Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Autrement dit, Jésus est en train de dire qu'il va bâtir une église pour que l'église ait la puissance contre les ténèbres. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre que quand on est sauvé, quand on accepte Jésus, on devient l'Église, on fait corps avec l'Église, on fait partie de l'Église. En tout cas, le Seigneur, quand il fait son œuvre de restauration, il le voit comme ça. Après, c'est à nous d'en prendre conscience et de pouvoir être avec l'Église. Nous avons autour de nous un monde où les ténèbres sont puissantes sur les hommes. Mais Dieu a donné l'Église pour être puissante sur les ténèbres. Amen. Et le texte dit, Jésus bâtit, touche des hommes par son esprit, il les régénère et il les rassemble afin que les ténèbres puissent reculer. Amen. Et l'Église, la Bible dit, ce n'est pas le bâtiment, même si on dit je vais à l'Église. Alors c'est vrai que dans le langage courant, c'est aussi le bâtiment, mais la définition biblique de l'Église, c'est le rassemblement des croyants. Le rassemblement de ceux qui croit en Jésus, et c'est ce rassemblement, et pas que le rassemblement, on en parlera dans quelques instants, mais c'est le fait que nous mettions notre foi en commun qui permet à l'Église de voir les ténèbres reculer. Amen. Nous ne sommes pas, et dans le texte qu'on a lu, on n'est pas juste rassemblés pour passer de bons moments ensemble, même si c'est super, parce qu'il y a plein d'endroits où vous pouvez passer des bons moments. Mais nous sommes là aussi rassemblés. Alors tant qu'à faire, passer des bons moments, mais nous sommes rassemblés pour vivre la victoire sur les ténèbres. Amen. Le péché, le mal, l'oppression, les blessures, les maladies, les problèmes, est-ce qu'on est d'accord avec cela? On est là pour que les ténèbres reculent. Et on va lire ce matin un texte dans 1 Samuel chapitre 11. Alors dis à ton voisin, concentre-toi parce que celui-là, tu ne l'as pas souvent lu. Voilà, dis-le à ton voisin, concentre-toi. Parce que des fois, on perd le fil, on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, 1 Samuel chapitre 11, et nous lisons les 8 premiers versets ainsi que le verset 11. Nachash l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta, ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek, les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. On passe au verset 11. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Amen. Ça va, vous avez suivi? Ouais. Alors, j'aimerais voir plusieurs choses dans ce texte et on va ensemble avancer. D'abord, au niveau du contexte, on est dans un moment où Saül est devenu roi. On est au début du règne de Saül et même si les lecteurs de la Bible sont habitués à voir Saül négativement, parce qu'on sait que Saül va décliner et va mal finir même, là on est plutôt dans ce texte, dans ce qu'il a fait de mieux, d'accord ? Parce qu'il n'a pas toujours été dans le déclin, il a été à un moment donné dans la volonté de Dieu. On est au début de son règne, on est même au moment où des gens n'ont pas encore accepté, ils attendent de voir, accepter sa royauté. Et on voit au verset premier, ça va être d'ailleurs un épisode qui va l'affermir en tant que roi, on voit au verset premier qu'il est parlé d'un ennemi, Nachash l'ammonite, qui vint, et on vient de lire... Il vint assiéger Jabès en Galade. D'autres textes disent camper. En fait, assiéger, c'est on vient camper. Première chose que j'aimerais dire, c'est que il y a des moments où l'adversaire de notre âme, je rappelle le diable, l'adversaire de notre âme nous touche ponctuellement et puis ça passe. Mais il y a des moments, et c'est plus terrible, quand l'ennemi, il campe. Il campe dans ta vie. Il ne vient pas juste à un moment donné, il s'installe. Il reste, il demeure, non seulement dans ta vie, mais ça peut être aussi le cas dans la vie de ceux qui nous entourent. C'est terrible quand tu acceptes Christ, tu aimes Jésus, et autour de toi, tu as des gens où tu vois que l'ennemi campe dans leur vie. Il ne part pas, il reste là, il s'installe. Et ça peut être évidemment, quand on parle de l'adversaire, le diable, finalement, comme on ne le voit pas, pour beaucoup de gens, il n'existe pas, mais toutes ses œuvres, on les voit. Les blessures qui restent, l'injustice qui reste, les conflits qui restent, la maladie qui reste, le manque qui reste. Il y a tellement de choses qui peuvent être là et rester dans nos vies. Et la Bible dit que, et il s'agit donc de ces hommes de Jabès en Galade, ils sont là dans cette situation où l'ennemi les assiège, l'ennemi reste. Et l'Écriture dit, toujours au verset premier, qu'ils vont vouloir faire alliance avec Nachash et le servir. Ils vont vouloir faire alliance avec l'ennemi. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils veulent limiter les dégâts. Ils veulent limiter les dégâts, ils veulent éviter de mourir, d'être détruits. Ils savent que l'ennemi est là et ils se disent, bon, on veut bien que l'ennemi soit là, on veut même servir l'ennemi tant qu'il ne nous détruit pas. Ils veulent éviter de mourir, d'être détruits. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui parce que l'adversaire est là, le problème est là parce qu'il ne part pas. Peut-être qu'au départ, tu cherchais à le vaincre et aujourd'hui, tu cherches plutôt à vivre avec. Tu cherches plutôt à composer avec. Tu cherches plutôt à négocier avec. Et quand l'ennemi venait camper, moi j'aimerais le dire et on va le lire, il ne vient pas camper juste pour camper, mais l'ennemi il vient camper pour dominer, pour te détruire. Il ne veut pas juste camper, être là, mais il veut avoir le pouvoir sur toi. Et c'est ce qu'on voit, on va le voir avec la réponse de Nachash au verset 2, puisque au verset 1er, ils veulent faire alliance et Nachash leur dit « D'accord, je veux bien faire alliance avec vous à condition que je crève l'œil droit de tous les hommes de votre peuple. » Ça, c'est l'ennemi, ça. C'est l'adversaire de notre âme. La Bible dit qu'il vient égorger, voler et détruire. Et c'est vrai que, vous savez, quand vous voulez limiter les dégâts, c'est jamais la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution de faire un deal avec l'adversaire, de faire un deal avec ta maladie, de faire un deal avec l'injustice, de faire un deal avec la blessure. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il veut crever l'œil droit. Ça veut dire quoi? Vous savez, l'œil, c'est ce qui sert à la vision, à la perception. C'est comme si il dit, voilà, tu veux faire alliance avec moi? D'accord, mais moi, je vais enlever ta vue. Et vous savez, c'est ce qui se passe. Quand tu fais une alliance avec le diable, avec ton problème, quand tu commences à accepter des compromis, tu commences à ne plus voir les choses de Dieu. Tu commences à devenir aveugle. Et les choses de Dieu, tu ne les vois plus, parce que les ténèbres et la lumière peuvent pas cohabiter ensemble. L'œil, c'est la vision, la perception et la précision de l'œil droit. Le droit, ça signifie la force. Et vous savez, en fait, à l'époque, quand ils faisaient ça, quand ils proposaient de crever l'œil droit, en fait, ça leur permettait à l'ennemi, ça permettait que les soldats soient tous neutralisés. Parce qu'à partir du moment où un soldat, il a l'œil droit crevé, il ne peut plus se battre convenablement. C'est comme si l'adversaire disait, eh bien, ce que je veux, ok, je fais alliance avec vous, mais je fais quelque chose pour que plus jamais vous n'ayez la victoire. Pour que plus jamais vous puissiez vous révolter. Pour que ça ne puisse jamais changer, mais que vous restiez toujours de cette manière-là. Ça, c'est l'adversaire de notre âme. Enlever la force. Faire ce qui nous fait perdre notre force. Vous comprenez bien que quand tu combats avec un seul œil, contre quelqu'un qui en a deux, tu as un désavantage. Et les commentateurs disent que cette mutilation, elle visait à mettre les soldats hors de combat. Mais en même temps, cette mutilation, on l'a lu, c'était un acte d'humiliation pour humilier le peuple. Et c'est ce que l'adversaire de notre âme veut faire dans nos vies et dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Perdre l'honneur, on le voit avec Samson, on lui a crevé les yeux, on l'a humilié. Et ça, c'est l'adversaire de notre âme. Il veut faire quelque chose qui te permettra jamais de pouvoir le renverser. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité pour que tu le renverses. Et on voit dans ce texte, c'est vrai que ce peuple de Jabès en Galade, eh bien, on va le voir, il manquait de force. En acceptant de se soumettre à l'ennemi, d'un œil tu vois l'ennemi, et de l'autre œil tu vois plus Dieu, tu vois plus ce que Dieu veut faire. Ça c'est un petit peu le constat, un peu le paysage, ce qu'on voit dans ce texte. Et c'est vrai aussi, il y a une image spirituelle quand nous finalement nous arrêtons de croire que Dieu peut faire quelque chose et que nous composons avec les problèmes. Eh bien, nous plaçons plus notre foi en Dieu, nous plaçons notre foi finalement dans ce qui est visible. Et à cause de cela, nous empêchons Dieu de pouvoir nous libérer, de pouvoir délivrer, de pouvoir agir. Parce que la Bible dit que c'est quand nous plaçons notre foi en Christ que l'Esprit de Dieu se meut, que l'Esprit de Dieu agit. Et c'est là aussi, quand nous plaçons notre foi en Christ, que Dieu nous donne de voir ce que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. Amen. Je pense à Élisée qui plaçait sa confiance en Dieu et qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il voyait l'armée de Dieu qui était là pour le défendre. Et c'est vrai qu'au départ, Saül était un bon roi, mais nous savons qu'à la fin, il a arrêté de se confier en Dieu et il ne voyait plus. Il voyait plus ce que Dieu voulait, à tel point qu'il allait même voir les voyants parce qu'il n'avait plus l'éclairage. C'est terrible quand c'est comme cela. Et parfois, on peut imaginer Jabès en Galade, ces hommes qui étaient là, ils n'ont pas la possibilité d'être tranquilles. Et ils essayent de faire un deal avec l'ennemi pour trouver la paix. Mais je voudrais vous dire, il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais de paix si on essaye juste de composer avec l'ennemi ou les œuvres de l'adversaire. La réponse au verset 3 de Jabès en Galade, on peut la relire, ils disent ceci. « Accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » En fait, ils sont en train de dire « Nous n'avons pas assez de force pour te vaincre. » Et parfois, c'est sûr, quand on est là dans nos vies, quand l'ennemi vient une fois, on le renverse, c'est merveilleux. Mais quand il est là, et qu'il est là depuis des mois, qu'il est là depuis des années, et qu'on a tout essayé, tout fait, mais qu'il est toujours là, on pourrait se dire, mais finalement, et c'est la vérité, mais je n'ai pas assez de force. je n'ai pas la possibilité. Et eux, c'était leur cas. Ils savaient qu'ils n'avaient pas la force de vaincre Nachash. Et parfois, nous sommes dans ces situations, nous n'avons pas assez de force pour vaincre l'action, l'œuvre de l'adversaire dans nos vies, ou l'œuvre de l'adversaire dans la vie de ceux qui nous entourent, la vie de nos familles, parfois nos collègues de travail, les gens qui sont autour de nous. Alors, ils font quelque chose, ils demandent à l'adversaire du temps pour trouver de l'aide. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi l'adversaire, il leur dit oui ? Moi, je ne sais pas, je serais l'ennemi. Je leur dirais, vous rigolez ou quoi ? Vous voulez trouver de l'aide pour être plus fort et nous vaincre ? Mais là, ils demandent de l'aide et Nachash accepte. C'est assez étonnant. Vous savez pourquoi ? Parce que l'ennemi, il est orgueilleux. Parce que Nachash, il pense que de toute façon, qu'il soit seul ou qu'il soit accompagné, il les vaincra quand même. L'ennemi, il est comme ça, il est orgueilleux et c'est ce qui fait sa chute. Parce que l'ennemi, il croit, Nachash, il croit que, allez-y, allez trouver de l'aide, parce qu'en même temps, il veut les humilier publiquement. Donc, il dit, allez-y. Et puis, en 7 jours, il sait très bien qu'ils auront du mal à trouver du monde. Alors ça, c'est ce qu'on déduit. Mais ce qui est vrai, ce que la Bible nous montre, c'est que oui, l'ennemi, il est orgueilleux, c'est ce qui a fait sa chute, d'ailleurs. Et donc, ces hommes, ils vont chercher de l'aide. Et ils vont chercher de l'aide, et on va voir ce qui va se passer dans la suite. Et c'est vrai que seuls les hommes de Jabès en Galade ne pourront pas vaincre. Parfois, seul on ne peut pas vaincre. Mais Jésus, il donne à l'Église de vaincre les ténèbres. L'Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alors, verset 3, ils vont chercher du secours. Et regardez la réaction des gens, verset 4. Alors, 1 Samuel 11, verset 4. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Voilà, si tu cherches de l'aide parmi les hommes, tu vas trouver peut-être des gens qui ont compassion. Ils vont pleurer, mais ils ne vont pas te donner la victoire. Ils ne vont pas t'aider. Vous savez, dans le monde, il y a ceux qui sont évidemment centrés sur eux-mêmes, qui pensent qu'à eux, qui ne t'aideront pas. Et puis, il y a ceux, parce qu'il n'y a pas que des gens non plus centrés sur eux-mêmes, même si le péché fait ça, mais il y a des gens qui vont vouloir aider, qui vont être touchés, qui vont avoir compassion, mais qui ne pourront pas renverser l'ennemi qui est là dans ta vie. Et donc, ils cherchent du secours, les gens sont touchés, mais ils n'ont pas la puissance de les aider. Et autour de nous, aujourd'hui, on a toutes sortes de systèmes humains, et on a plein de systèmes qui veulent nous aider, mais qui sont limités à cause du péché. C'est vrai, à cause du péché, certains ne pensent qu'à leur intérêt, puis d'autres, à cause du péché, parce que Dieu n'est pas dans leur vie, ils sont limités à une action humaine. Mais il n'y a pas une puissance spirituelle pour vaincre les puissances des ténèbres. Alors au verset 5, eh bien, cela arrive aux oreilles du roi, le roi Saül, qui demande « Mais pourquoi y a-t-il des pleurs ?» Et ici, Saül, ici c'est aussi une image de Jésus, même si, comme je vous l'ai dit, Saül à la fin il va mal finir, mais au départ, Saül c'est une image de Jésus, puisque son nom veut dire « demander et exaucer ». Et en fait, on voit que Saül, lui, va être différent, il va entendre les pleurs, mais il ne va pas en rester là. Il va faire quelque chose, il va rassembler le peuple pour aller vaincre Nachash l'Ammonite. Et ça, c'est aussi une image de Jésus-Christ qui a été exaucé par Dieu, parce que la Bible dit que lorsqu'il priait, eh bien, il était exaucé, et la Bible dit que la faveur de Dieu était sur Jésus parce qu'il était pur et saint et que tout ce qu'il demandait, Dieu l'exauçait. Mais Jésus est celui aussi qui est exaucé, celui aussi qui demande à Dieu, parce que Jésus est notre intercesseur. Il est celui qui prie, vous savez, qu'il intercède pour nous, la Bible dit. Il intercède par les prières. Et en fait, ici dans ce texte, c'est une image, Saül est une image de Jésus-Christ qui va donner sa vie sur la croix pour que, en lui, l'être humain puisse demander à Dieu et être exaucé par Dieu. Et parce que en Jésus, eh bien, l'Église va être bâtie. L'Église va être formée. Et cette église-là, elle va être puissante face aux ténèbres. Et que tu le veuilles ou pas, je vais peut-être te choquer, aucun système humain ne peut vaincre les ténèbres, mais l'église peut vaincre les ténèbres. Et l'église, c'est l'aspect physique sur terre du royaume de Dieu. Et j'aimerais vous dire, encore une fois, le bâtiment, il ne change pas, mais ta présence avec l'Esprit de Dieu dans le bâtiment, avec d'autres personnes qui ont le même Esprit de Dieu, ça peut faire reculer les ténèbres. Amen. Et ça, c'est puissant. Et Saül va rassembler. Alors, la Bible dit qu'il va être rempli de l'Esprit, et juste après, la Bible dit qu'il va se mettre en une grande colère. Alors, il peut y avoir la colère de Dieu contre le diable et le péché, d'accord ? Mais bon, dans ce texte-là, vous savez, Samuel avait prévenu, il avait dit, vous demandez un roi, je vais vous en donner un, mais il dominera sur vous, il prendra vos fils et vos filles, en feront des soldats. Ça, c'est ce que la Bible disait, c'est ce qui va se passer. Il va dire, tous ceux qui viennent pas combattre, il va tuer un bœuf, il va dire, tous ceux qui viennent pas combattre, vous aurez vos bœufs comme celui-là. Donc il y va par la force, il les rassemble. Ça, c'est pas ce que Dieu fait, Dieu ne nous rassemble pas par la force, d'accord ? Mais Dieu va nous rassembler par son esprit. Il va toucher notre cœur. Il va agir avec son esprit pour toucher notre cœur et nous rassembler pour que les ténèbres soient détruites dans la vie des gens. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire. Il ne nous impose pas, mais il œuvre en nous par son esprit. Et la Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a l'amour. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'esprit, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la foi, c'est la bienveillance, c'est la maîtrise, c'est la douceur. Ce sont des choses qui viennent de Dieu. Et Jésus va se lever, bâtir une église pour que ceux qui sont seuls puissent gagner la victoire. Amen. Comme Saül a pris un peuple pour secourir Jabès en Galade, eh bien, Jésus vient parmi son peuple lever des hommes, appeler des hommes à se lever avec l'Église pour que ceux qui ne pourront jamais avoir la victoire seuls puissent avoir la victoire. Amen. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi à la rentrée, le mardi soir, nous allons combattre. Nous allons prier. Nous allons être édifiés pour que nous puissions voir de plus en plus les ténèbres reculer. Parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre, il y a un combat. L'ennemi, il vient, l'ennemi, il s'assure que tu ne vois pas qu'il est là, et ensuite, il te détruit. Et après, toi, tu es là et tu te dis, mince, il y a tout ça qui ne va pas. Et quand il n'y a rien qui se passe, tu peux faire comme Jabès en Galade, faire un deal avec l'adversaire. Mais le Seigneur désire que nous puissions nous lever et mettre notre foi en commun et remporter des victoires pour les autres. Amen. Et vous verrez comment Dieu prend soin de vous. Et c'est important, et ne vous inquiétez pas, on évangélise par les baptêmes, on évangélise le dimanche matin, on évangélise quand on va dehors, on va évangéliser par Internet, on va évangéliser, il n'y a pas de souci. Mais nous avons besoin de prier ensemble pour voir le royaume de Dieu, la puissance de l'Église se manifester dans la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de besoins, on va en parler dans quelques instants, et je voulais amener ce message, l'été arrive. Et vous savez, quand l'été arrive, le diable, il en attend beaucoup pour les détruire. Je voudrais te dire, l'été arrive, mais ne sois pas seul. Ne sois pas seul, mais cherche plus Dieu si tu as plus de temps. Et garde une vie d'Église, et si tu voyages, et si tu pars, va dans une église, c'est l'occasion de voir autre chose. Ne reste pas, tu es en vacances, mais on n'est pas en vacances spirituellement. On a besoin, parce que nous les pasteurs, on est attristés souvent. Alors moi je viens d'arriver sur Albi, alors peut-être que Albi c'est différent. Mais nous on voit à chaque été, il y a des chutes. À chaque été, il y a des drames, à chaque été, il y a des choses comme ça. Pourquoi les gens ont plus de temps? Alors au lieu de chercher plus le Seigneur, on fait autre chose. On peut faire autre chose. Mais je voudrais vous dire, le diable n'est pas en vacances, lui. Et nous avons besoin, les uns et les autres, de dire, l'été arrive, c'est l'occasion pour moi de continuer de chercher le Seigneur, de connaître le Seigneur et d'être là dans la vie d'église. Et puis quand je m'en vais, c'est l'occasion de découvrir une autre église. On apprend beaucoup de choses quand on va dans d'autres églises. Bon, en espérant que ce soit une bonne église. Mais, c'est une parenthèse. Mais nous, les pasteurs, on peut être parfois attristés de voir les chutes. Et vous savez, les chutes, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fidèle. C'est parce que nous ne veillons pas. Nous ne veillons pas. Alors, dans ce texte, le peuple est rassemblé par la peur, mais Dieu rassemble une église par l'amour. Par amour. Et j'aimerais te dire, tu as quelque chose à vivre. C'est vrai, venir à l'église prier pour les autres, ah, la chair, elle n'aime pas. Parce que la chair et notre monde, c'est moi. On veut développer le moi. Mais plus tu développeras le moi, plus il y aura un vide, parce que c'est un puits sans fond. Mais si tu sers le Seigneur, il s'occupera de toi, mais ton cœur sera comblé. Tu auras ce sentiment d'utilité. Et je voudrais que quand on vient à l'église le mardi, on vient finalement pour vivre quelque chose de réel et d'éternel. On ne vient pas, moi, prier pour prier ne m'intéresse pas. Je prie pour que nous puissions voir les ténèbres reculer, pour que des âmes soient sauvées, pour que les jeunes qui luttent avec le péché, ils soient vainqueurs sur le péché, pour que les disciples deviennent de véritables disciples qui aiment le Seigneur, pour que l'Église puisse grandir, pour qu'on puisse progresser dans le témoignage, dans les dons de l'Esprit, pour que Dieu se serve de nous, pour que nous puissions voir le royaume de Dieu dans les cœurs. Amen. Vous ne dites pas amen, mais tant pis, on va quand même y aller. Hein. C'est important. Verset 9, ceux de Jabès étaient remplis de joie. Ils sont remplis de joie avant même la victoire, remplis de joie de voir des personnes les soutenir. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être soutenu par l'Église, soutenu par des personnes. Alors souvent, ce qu'on connaît plus, c'est être déçu par l'Église, déçu par des personnes. Et oui, parce que nous sommes des êtres de chair et nous vivons la vie de l'esprit, mais nous sommes en chemin. Et certains, ils alimentent plus la vie de l'esprit, certains, ils alimentent plus la chair. Ce qui fait que, ben, parfois, on est déçu. C'est pour ça que nous plaçons toute notre confiance en Dieu, premièrement. Nous plaçons notre confiance en Dieu, mais Dieu se sert quand même de cette église, qui est, oui, humaine, mais il se sert de cette église, il met l'esprit de Dieu en nous pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres. La Bible dit « Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez la loi de Christ, cette loi parfaite qui est d'aimer, aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. » Ce qu'on appelle la loi de la liberté. Alors, ne viens pas juste me dire « Pasteur, prie pour moi », mais dis-moi « Pasteur, prie pour moi et moi je vais prier pour les autres. » Ça sera un peu mieux. Parce que des fois on dit « Prie pour moi et puis moi je vais faire tranquille. » Mais on a la responsabilité. La responsabilité de parler à Dieu pour voir le royaume de Dieu venir dans la vie des gens. C'est notre responsabilité. Vous savez, depuis quelque temps, moi je ne peux parler que depuis que je suis là, mais je sais que Dieu agissait bien avant. Mais en tout cas, depuis que je suis là, j'ai pu voir de belles choses et ça nous réjouit. Hein ? Alors, avant, il y avait encore de plus belles choses parce que j'ai appris que l'année dernière, vous avez fait 9 baptêmes ou 10 baptêmes. Je dis « Waouh, c'est merveilleux !» Mais combien nos cœurs se réjouissent de voir des conversions. On a dernièrement quelqu'un qui devait être expulsé, il a été gardé. J'ai eu aussi quelqu'un qui a un problème, une maladie, elle a fait des tests étaient négatifs. On a un frère, il a eu son concours, on était content pour lui. On a une quinzaine de personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. On a une sœur qui devait se faire opérer à un organe métastasé, les métastases ont disparu. On a eu un don financier pour l'Église qui a rattrapé le retard. Merci Seigneur, mais là on reprend, le retard il faut encore, hein, on a besoin de la grâce de Dieu. On a une personne qui a reçu, elle avait un problème, elle a prié Dieu, elle n'avait pas assez, elle a eu la provision de Dieu. Dans la même journée, des gens sont venus lui donner des choses. On a des gens qui ont été guéris dans leur cœur, qui ont rendu témoignage, ils ont changé, dont une qui est partie dans la rue évangéliser, une personne dans la rue, elle est venue à l'église, et cette personne, elle a été délivrée de troubles alimentaires, d'anorexie depuis 15 ans. On a un couple qui a évité la séparation, on a notre frère Alain, il devait partir en Croatie, et puis ils ont réalisé qu'il avait un problème à l'œil, il a dû être opéré d'urgence, s'il était parti, peut-être qu'il aurait perdu son œil. On a une personne qui a été libérée de la cigarette, sortie de l'islam. On a une sœur en ce moment, elle est en train de mettre sa vie en règle. On a même un pasteur chilien au milieu de nous qui est venu et il avait ses bagages qui étaient bloqués à la douane. Le lendemain, ça s'est débloqué. Ils l'ont amené chez lui et là, il a réalisé que si ça n'avait pas été bloqué, ça ne rentrait pas dans sa voiture. On a une sœur qui a pu renouer avec sa fille depuis des années. Voilà ce que le Seigneur fait. Les ténèbres reculent, mais en même temps, on a des couples en ce moment qui ont besoin de restauration. On a des jeunes qui luttent avec le péché. On a une personne en ce moment qui est bloquée. On a des gens avec des résistances dans le cœur. Il y a 4 cancers en ce moment, dont un cancer qui ne peut pas guérir. On a une personne qui a fait faillite. On a des jeunes, des personnes sous emprise du diable qui sont oppressées, opprimées, liées. On a des personnes qui ont des problèmes au niveau du fer, on a des handicaps, on a des personnes qui ont des problèmes de saignement, de migraines, des attaques, névralgie, fibromes, problèmes de toutes sortes de problèmes, problèmes de la chair aussi, la colère, etc. Des situations non réglées, problèmes cervicales, de dépression, problèmes de dos, problèmes propres aux femmes, et j'en passe. Tout cela, c'est des réalités, puisque c'est dans mes sujets de prière. C'est pour ça que je vous le dis. Mais comment nous allons vaincre ça? Moi, je prie déjà, mais vous savez, quand vous avez une grosse pierre et que vous poussez tout seul, vous avez besoin d'autres personnes pour pousser. Et je dis, oui, mes bien-aimés, ensemble, nous pouvons voir l'Église repousser les ténèbres parce que Jésus l'a dit. Amen. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Il attend juste une Église qui y croit et qui est prête à ne pas être emportée par le vent de l'individualisme, mais de dire, je vais me lever, ma vie sera pour les autres, pour le royaume de Dieu. Et je veux que l'Église, nous passions maintenant dans une phase... Oui, nous prêchons que Christ délivre, Christ guérit, Christ libère. Oui, mais il veut le faire au travers de toi. Il veut le faire au travers de toi. Moi, je suis un pasteur, je suis comme un entraîneur. Luis Enrique n'a pas gagné la Ligue des Champions tout seul. Il a gagné la Ligue des Champions à cause de l'équipe. Et nous avons besoin d'être ensemble pour que nous puissions voir les ténèbres reculer. Mais pour ça, il faut le croire. Si tu viens prier sans croire, bienvenue dans la religion. Mais nous prions parce que nous croyons. L'église où j'étais avant, on était 70 le dimanche, 30-35 à la réunion de prière. Quasiment chaque semaine, nous avions des témoignages de ce que Dieu faisait. La moitié. Et je prie que le mardi soir, il y ait de nombreuses personnes. Parce qu'une personne qui croit fait une différence. Et parfois, nous croyons qu'il faut du charisme, nous croyons qu'il faut des talents, nous croyons qu'il faut toutes sortes de choses. Non, il faut... Vous savez, Dieu, il travaille avec la foi. Si nous avons la foi et que nous l'entretenons, aujourd'hui, le message va booster votre foi. Mais dans toute l'année, c'est à nous-mêmes de booster notre foi par la communion que nous avons avec Dieu. Et c'est vrai, des fois, on vient le mardi, on est fatigué, c'est pas toujours facile, mais nous venons parce que nous croyons qu'au travers de ma prière, au travers de ma foi, avec mes frères et sœurs, les ténèbres vont reculer parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Amen. Vous savez, dans une guerre, comment ils font pour gagner? Certains, vous savez ce qu'ils font? Ils attirent, et notamment les Romains qui étaient très groupés, ils les attiraient dans la forêt. Et là, dans la forêt, ils se dispersaient. Et une fois qu'ils étaient dispersés, les ennemis, eh bien, les détruisaient parce que les ennemis connaissaient la forêt. Et l'ennemi, il fait comme ça. Il veut nous détruire. Il nous amène dans la forêt de ce monde où nous sommes complètement disséminés. Et là, il détruit comme il veut. Mais quand l'Église sort de la forêt, se rassemble ensemble, l'ennemi ne peut pas détruire comme il le faisait avant. Est-ce que vous comprenez? On a besoin de se rassembler, mais pas de se rassembler juste physiquement, comme un club de pétanque, j'aime bien la pétanque. Mais nous avons besoin de rassembler nos cœurs ensemble, notre foi ensemble, et de nous battre pour les autres. Et tu verras que Dieu prendra soin de tes études. Ma femme, elle a fait médecine, et la médecine, c'est difficile. Elle n'aime pas que je parle de ça, mais elle n'est pas là. Pas qu'elle écoute le message, je plaisante. Elle a fait médecine. Elle a passé première année, sixième année. Quand elle a passé ses années, bien sûr, elle n'allait pas à toutes les réunions, mais elle allait le dimanche, elle allait le mardi. Pas tous les mardis, mais elle y allait. Et elle continuait, même si elle étudiait, elle continuait de prier pour les autres. Et chaque année, quand elle a passé la première année, chaque année, elle avait des amis et elle était pas forcément très bien classée quand ils avaient des examens, ils comparaient leurs résultats. Mais quand elle a passé le vrai concours, eh bien, elle a été 600 sur 6000. Elle pouvait tout choisir, toutes les spécialités, tout. Elle a eu meilleur résultat que tout le monde, mais elle sait très bien, c'était pas son intelligence, même si elle est très intelligente, j'en doute pas. Mais il y a eu la grâce de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu s'est occupé d'elle, mais en même temps, elle s'est occupée du royaume de Dieu. Alors après, chacun fait selon sa foi. Mais j'aimerais te dire que oui, l'ennemi, il essaie de nous disperser dans la forêt pour nous atteindre. Mais le Saint-Esprit rassemble son Église pour que nous puissions avoir un impact. Parce que le travail de Dieu se fait par la foi. Quand les disciples ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en son Fils, que vous croyez. Mais comment on croit alors? Comment on croit? Mais on croit par la prière. On croit et on place notre foi en Dieu. On prend notre position aussi. Amen. Alors on a de belles victoires devant nous. Et verset 11, eh bien il est dit que Saül va donner la victoire. Il va, avec ce peuple rassemblé, ils vont remporter la victoire sur Nachash. Et donc cette victoire pour Jabès en Galaad. Voyez, la victoire, elle vient de Jésus, mais elle vient du peuple qui se rassemble. On entend? Amen. Elle vient de Jésus, mais elle vient du peuple qui se rassemble. C'est bien d'avoir plein de choses à faire, mais c'est important d'être ensemble. Vous savez, la Bible le dit, il y a une bénédiction particulière à l'Église, parce que Dieu veut bénir les autres. Dieu veut bénir son peuple. Hein, c'est là qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Bien sûr, Dieu te bénit aussi dans ta chambre, Dieu te bénit tout seul. Mais il y a une bénédiction particulière quand le peuple de Dieu se rassemble, parce que Dieu veut nous bénir tous, comme on l'a chanté. Amen. Alors je souhaite que le Seigneur, parce que ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire, le Seigneur touche ton cœur. Et que tu puisses dire, Seigneur, je veux vivre pour que les portes du séjour des morts puissent reculer et pour que le royaume de Dieu et la lumière de Dieu puissent venir dans la vie des personnes qui sont autour de moi, peut-être aussi dans ma propre vie. Pour cela, et je voudrais avancer, il y a des victoires, la Bible montre, il y a des victoires qu'on ne gagne pas tout seul. Gédéon a gagné la victoire avec 300 hommes, même si ce n'était pas beaucoup, parce que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Beaucoup de textes nous montrent qu'il y a des victoires que nous gagnons ensemble. Les disciples, à la Pentecôte, ils étaient 120. Ils ont gagné la victoire alors qu'ils étaient ensemble. Vous voyez, même Josué et Caleb qui avaient la foi, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis à deux. Ils sont rentrés dans le pays promis avec tout un peuple, la nouvelle génération. Pourtant, ils avaient la foi. Ils auraient pu rentrer que tous les deux. Mais non, Dieu ne l'a pas fait. Dieu les a fait rentrer avec le peuple, la nouvelle génération qui était prête à croire. Après, ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est l'accord ensemble. Matthieu 18, 19, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose, elle leur sera accordée. La Bible dit même, dans l'Ancien Testament, avec cette tour de Babel, ces hommes qui s'accordèrent pour agir contre Dieu. Eh bien, la Bible dit qu'il y avait même une puissance, parce qu'au verset, chapitre 11, verset 6, il est dit, Dieu dit, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ouais, il y a une puissance quand ils s'accordent. Alors après, il va diviser leur langage parce que là, ils s'accordaient pour faire quelque chose contre Dieu. Mais il y a une puissance quand il y a un accord spirituel. Pas juste un rassemblement, parce que les 12, ils étaient rassemblés, mais les 12, vous savez, sans l'Esprit de Dieu, ils ont abandonné Jésus. Mais quand les 12 avec d'autres personnes étaient là, ils ont été remplis du Saint-Esprit, là, ils ont commencé à faire une différence. On a besoin de se rassembler et on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Un charbon tout seul ne peut pas cuire 20 saucisses, n'est-ce pas les jeunes? Parce qu'ils ont fait un barbecue, je croyais. Mais sans charbon, on peut cuire bien un grand nombre de saucisses. Un objet de déménagement. Il y a des objets, on les porte seuls. Mais les pianos, vous ne les porterez pas seuls. D'ailleurs, il y a une sœur là qui me disait ce matin qu'il y a un canapé qui doit aller chez quelqu'un, mais il manque des gens pour le porter, on ne peut pas le porter tout seul. Donc s'il y a quelqu'un qui veut aider, venez me voir, c'est l'occasion. Personne ne peut porter un canapé tout seul, sauf Fabienne. Vous lui demanderez pourquoi, mais... non, je plaisante. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas porter tout seul. Il y a des choses qu'on a besoin les uns des autres. Amen. Et donc l'Église, on va se retrouver pour prier, pour être édifié, encouragé, enseigné par la parole de Dieu et être acteur de l'avancée de l'Église, la victoire dans les cœurs. Amen. C'est mon désir et notre prière que chacun d'entre nous, nous entrions dans la vocation que Dieu a pour nous. Bien sûr, je parle de l'Église, mais l'œuvre de Dieu va bien au-delà de l'Église. Nous ne nous rassemblons pas seulement pour ce qui se passe à l'Église, nous nous rassemblons pour ce qui se passe dans nos familles, pour ce qui se passe dans notre travail, pour ce qui se passe dans le cœur de nos enfants. Nous allons de plus en plus nous rassembler les enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tout le temps dans le monde. S'ils n'ont que des amis dans le monde, s'ils ne connaissent que l'esprit du monde, avec toute l'impureté et tout ce qu'il y a, comment pourront-ils devenir des hommes et des femmes de Dieu s'ils ne connaissent pas autre chose ? Nous avons besoin d'avancer ensemble. Et nous serons plus efficaces. Je termine simplement, enfin, c'est la première fois que je termine, je vais essayer de ne pas terminer trois fois. Mais il y a cette réalité que si nous voulons servir le Seigneur, la Bible dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Porter sa croix, c'est marcher vers notre propre exécution, accepter de faire mourir la chair, la propre volonté, ma propre justice, mes propres désirs, mes intérêts personnels pour vivre pour l'intérêt de Dieu. Et ça, c'est à nous de le faire. Mais en réalité, la Bible dit, nous avons été crucifiés avec Christ. C'est ce que le Seigneur a fait à la croix. Nous sommes morts avec lui, mais nous avons... Ça, c'est la théorie. Mais l'Église, c'est la pratique. Ça, c'est la théorie, mais l'Église, c'est la pratique. La pratique, c'est quand on dit, ben oui, je suis vraiment mort. Alors je viens à l'Église prier pour mon frère, ma sœur, pour ceux qui souffrent, parce que je ne vis plus pour moi, mais maintenant je vis pour le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille notre cœur. Accepter cette mort, c'est aller vers la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Quand nous acceptons de mourir à la chair, nous permettons à la vie de l'Esprit de se manifester. La vie de Dieu de se manifester, l'Esprit qui combat pour nous. Parfois, nous voulons voir l'Esprit, nous voulons voir l'Esprit sans faire mourir la chair. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'Esprit. On voit la chair, mais pas l'Esprit. Le moi. Et c'est vrai, on peut faire les choses de Dieu avec le moi. Et quand on fait ça, il n'y a pas le fruit, il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas les ténèbres qui reculent. Les ténèbres reculent quand tu prends ta croix. Tu dis, je meurs à moi-même. Et l'Esprit de Dieu fait aussi ce travail dans nos cœurs. J'ai prêché toute l'année que Dieu veut nous donner la victoire. Que Dieu veut intervenir de manière glorieuse. Mais Dieu veut aussi qu'on se lève pour la victoire des autres. Parce qu'il y a des Jabès en Galade, il y a des gens qui ne pourront jamais avoir la victoire tout seuls. Et Dieu a choisi l'Église pour leur donner la victoire. Est-ce que tu veux te lever? Inclinons nos têtes ensemble et prions maintenant. Dieu veut te donner la victoire. Et peut-être que toi qui es là dans les combats, viens à l'Église mon ami. Parce que c'est là où tu vas trouver la présence de Dieu qui te délivre. Et Dieu veut aussi te servir de ta vie. Se servir de toi, tu fais partie de son peuple, pour bénir ceux qui nous entourent. Et je voudrais m'adresser aux jeunes. Les jeunes, vous êtes appelés à faire partie de cette église, à être là le mardi soir et à prier pour que les jeunes qui sont en train de mourir, qui viennent, ils puissent trouver la vie, pour que nous puissions voir des victoires. Parce qu'aujourd'hui, il y a des défis. Et tout ce que nous voulons, et ce pourquoi je prêche, c'est juste que Dieu soit élevé et glorifié. Et sa gloire, c'est que son amour et sa puissance se manifestent dans nos vies. Amen. Est-ce que nous voulons dire Seigneur? On ne va pas accepter que le diable campe devant nous. On ne va pas faire un compromis avec le diable. Mais on va se battre avec l'Église parce que Jésus en est la tête et a promis la victoire. Est-ce que nous disons Amen à cela? Voici mon appel. Il est très simple et je ne vais pas vous demander de le manifester physiquement. Vous répondez dans votre cœur. Mais je voudrais appeler l'Église à venir régulièrement combattre le mardi soir. Je voudrais t'appeler, c'est toi devant Dieu, et ce n'est pas une question de juste être là, ce n'est pas ça. C'est une question de dire, Seigneur, je veux donner ma vie de manière pratique, pour que je puisse être utile. Bien sûr, tu peux le faire aussi dans ta chambre, dans ta maison, prier pour les gens, mais tu es aussi appelé. La Bible dit, nous sommes des pierres vivantes, nous sommes les uns avec les autres. La Bible dit que l'Église est un corps, un bras tout seul ne fera jamais la même chose qu'un corps entier. Et nous voulons être un corps entier parce que Dieu a tellement de choses glorieuses à faire. Mais il veut le faire au travers de nous. Est-ce que tu veux répondre dans ton cœur? Moi, je ne te demande pas de lever la main. Je te demande simplement de répondre dans ton cœur. Je sais qu'il y a bien des forêts dans lesquelles le diable veut nous amener. Il veut nous diviser. Il veut que le peuple, nous travaillons pour Dieu, mais sans prier, sans que nous puissions placer notre foi. Et je bénis Dieu pour les temps de prière le jeudi matin, pour les temps qu'on a eu le mardi. Ces temps vont disparaître et vont faire partie maintenant de la réunion de prière pour que nous puissions voir le Seigneur agir. Nous puissions voir les ténèbres reculer. Et je le dis et je le répète et on va prier. Si tu cherches en premier le royaume de Dieu et sa justice, toutes les choses dont tu as besoin te seront données par-dessus. 99% des chrétiens connaissent ce verset. Mais je ne dirai pas le pourcentage de ceux qui le vivent, mais je t'appelle à le vivre. Et je m'appelle moi-même, je viens avec vous, nous sommes appelés à le vivre. Et nous voulons dire Seigneur, Seigneur, merci pour l'exemple de Saül et de ce peuple qui sont venus secourir Jabès en Galade. Nous voulons être ce peuple-là. Avec ce nom de Jésus qui a promis la victoire, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. Oui, mais pour que ça soit, il faut le lier et le délier sur la terre. Que le Seigneur nous aide. Prions ensemble maintenant. Nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, pour la parole de Dieu, le fait que tu nous aies sauvés, que tu aies donné ta vie pour nous, tu t'es fait connaître à nous. Et nous voulons vraiment te remercier pour les œuvres que tu as faites, en réponse aussi à la prière de l'Église. Pour tous ces temps, ces personnes qui prient, que ce soit dans le lieu secret ou qui sont venues prier le mardi, le jeudi, à d'autres moments. Seigneur, nous te bénissons. Nous ne voulons pas non plus prier en étant à part de l'Église, mais nous voulons prier avec l'Église. dans d'un même cœur, dans un même sens, pour que nous puissions, Seigneur, écouter la voix de ton esprit, voir ton esprit agir, parler, nous recommuniquer ton cœur pour les perdus, afin que ce ne soit pas la chair qui nous éloigne et nous rend infructueux. Je te prie pour que ton esprit agisse dans nos cœurs ce matin, et pour que ton esprit, eh bien, crée le vouloir et le faire, et pour qu'à la rentrée, eh bien, et même dans cet été, nous puissions reprendre le chemin, de peut-être pour certains, de reprendre le chemin de la foi, pour d'autres, continuer sur ce chemin-là, chemin de la prière et de la foi. Et je veux déclarer, Seigneur, nous le déclarons ensemble, que parce que l'Église est unie, comme dans ce texte, nous allons voir des personnes remporter la victoire, des victoires qu'ils n'auraient pas pu avoir tout seuls, mais qu'ils ont parce que tu as rassemblé ton Église. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen. Amen. Reste encore quelques instants, peut-être dans la prière, et je voudrais qu'on ait un temps où tu parles au Seigneur, que tu discernes au-delà du message qu'on oubliera, mais que tu puisses discerner ce que peut-être le Saint-Esprit fait en ce moment. Est-ce que l'Esprit de Dieu crée le vouloir et le faire? Est-ce qu'il parle à ton cœur? Alors si c'est le cas, veille sur cela, parce que c'est un appel, c'est Dieu qui t'appelle. Et cet appel, il sera attaqué, l'ennemi fera tout pour que tu oublies cela et pour que finalement tu te disperses. Mais veille sur ton cœur, veille sur cet appel et nourris-le et prends ce temps dans la présence de Dieu. Et non seulement ça sera nourri, mais tu deviendras utile, le Seigneur te parlera, le Seigneur t'utilisera. Nous voulons et nous désirons voir la gloire de Dieu au travers de l'Église. Amen. Prends quelques minutes et parle au Seigneur maintenant, quelques instants. Amen.